15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et pour m'aider à vous éclairer, à vous rassurer, même parfois, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au développement personnel, à la psychologie positive après un confinement. Le télétravail forcé pour certains, les enfants 24 heures sur 24, beaucoup d'entre nous sont fatigués, nerveusement ou même remettent tout en cause, veulent déménager, s'aérer l'esprit. Alors pour nous aider à retrouver de la vitalité, le moral ou carrément trouver une nouvelle voie, nous recevrons Florence Servan-Schreiber. Elle est conférencière et spécialiste en psychologie positive. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours, nous répondrons à vos questions, mais désormais aussi celles qui concernent vos petits et gros bobos du quotidien. On sort un peu du coronavirus, c'est vrai. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Elle répondra à la question d'une jeune femme qui se plaint de son conjoint qu'elle aime profondément, mais qui parle vraiment, vraiment beaucoup trop, dit-elle, et pas toujours au bon moment.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un point rapide sur le coronavirus, car oui, dans un rendez-vous, nous revenons aux autres sujets santé, mais le virus, lui, est toujours là. Alors pour faire un point, aujourd'hui, nous accueillons en ligne le professeur Jonathan Freund. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord, vous faites partie de ceux qui sont donc convaincus qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Expliquez-nous.
Alors, attention, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de deuxième vague au relâchement du confinement, donc cet été-là maintenant. Mmh. En revanche, la deuxième vague saisonnière qui pourrait arriver à l'automne, ça, je ne peux rien dire.
Bien sûr, mais donc c'est le rebond d'ici 10 jours, celui qu'on attend, qu'on guette là depuis le déconfinement, celui-ci, vous n'y croyez pas ?
Je n'y crois pas, voilà, c'est une bonne façon de dire les choses, je n'y crois pas et j'en suis convaincu. En revanche, je n'ai pas de preuves, je n'avance pas de preuves.
Alors quels sont vos arguments quand même pour nous expliquer pourquoi vous n'y croyez pas dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent ?
Alors mes arguments, c'est surtout le fait que sur le terrain, premièrement, on se rend compte depuis des semaines et des semaines qu'il n'y a quasiment plus aucun cas d'infection aiguë, d'infection récente au coronavirus. Ça, c'est valable depuis, évidemment, pendant le confinement, sur la fin du confinement, et évidemment depuis le 11 mai, depuis le déconfinement. On peut dire que ça ne fait que deux semaines, mais dans certains endroits, le confinement n'était pas absolu et on aurait eu des signaux avant-coureur s'il y avait une reprise de l'épidémie. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Mmh. Et le deuxième argument, c'était qu'on se rend compte quand même que ce virus ne cible pas tout le monde, que ce virus ne peut pas, a priori, infecter 100% des personnes qu'il va rencontrer. Et sur des expériences plus ou moins personnelles et rapportées, on se rend compte qu'il y a une catégorie, un pourcentage de la population qui n'est pas touché, peut-être parce qu'il est déjà immunisé.
Alors on va rentrer dans le détail juste après. Jimmy Mohamed.
Donc peut-être que cet été, ça devrait aller en principe. L'épidémie semble contrôlée, mais si jamais le virus revient, certains experts disent qu'il pourrait muter comme la grippe. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de vaccin. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait peut-être être un peu plus inquiet que pour une épidémie saisonnière grippale.
Oui, c'est-à-dire qu'il pourrait muter, mais dans un sens comme dans l'autre. La plupart des coronavirus sont tout à fait bénins, comme vous le savez. Donc là, il y a eu une espèce d'hérésie, il est devenu méchant. Mais qu'est-ce qui nous dit que s'il remute la saison prochaine, il ne va pas remuter comme un gentil coronavirus classique ?
Eh oui, c'est ça. C'est vrai que ça peut muter dans le bon comme dans le mauvais. Il pourrait devenir moins méchant aussi, c'est possible. Une mutation, ça ne veut pas dire toujours aggravation. On en a parlé déjà dans cette émission. Professeur Freund, votre message aujourd'hui, il est quand même assez positif, en tout cas pour les semaines à venir. Vous ne remettez pas en cause, je crois savoir, le confinement qui a sauvé des vies. Et en tout cas, ce que vous dites alors, si je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'arrêter d'avoir peur. Ça veut dire qu'on peut revivre, ça y est, selon vous, comme avant ?
Oui, en très gros. Alors évidemment, vous faites bien de le signaler, on ne remet pas en cause une seconde le confinement qui était indispensable et qui a sauvé des vies, comme vous le dites. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut relâcher au maximum, enfin de plus en plus très vite, les mesures restrictives actuelles. Il ne faut pas tout lâcher d'un coup. Il ne faut pas dire à tout le monde, on rouvre toutes les boîtes de nuit, tous les concerts et tout le monde peut se cracher dessus. Mais je pense qu'il faut être assez confiant et assez optimiste et permettre aux gens de retrouver le plus vite possible une activité normale. Et ce sera un test d'ailleurs, parce que si jamais je me trompe et qu'on est nombreux à se tromper et que l'épidémie reprend immédiatement, on le saura tout de suite. On a une expérience, on a des signaux qui sont assez simples maintenant.
C'est ce qu'on voit avec les clusters d'ailleurs. Le virus, il est toujours là, il y a des clusters, mais il semble qu'on les maîtrise et on les voit apparaître très vite. C'est ça qui est rassurant aussi selon vous ?
c'est rassurant, maintenant on a une méthode de traçage, mais de toute façon ces clusters ne sont pas du tout inquiétants. C'est évident que le virus existe encore et il y a des cas épars comme ça, il va y avoir un cluster de 40 personnes dans un abattoir. On est à des kilomètres d'une reprise épidémique, on est à des kilomètres d'une nouvelle vague parce qu'il y a des clusters par-ci par-là.
Jimmy ?
Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais vous dites que probablement certains ne l'attraperont jamais, ce coronavirus-là, pour une histoire de protection liée à d'autres infections virales. Surtout que lorsqu'on regarde l'épicentre, notamment en Île-de-France ou dans le Grand Est, d'après les études de séroprévalence, seuls 10% de la population aurait eu le virus. Et donc on n'aurait peut-être pas besoin d'être tous malades pour être tous protégés.
Oui, exactement. Ce qui avait été dit initialement, c'est qu'il fallait aller, c'est un gros chiffre, de 60% d'immunisés pour que le virus ne circule plus. Or, on était inquiet parce qu'on ne voyait que 10% de sérologie positive. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a probablement des personnes qui sont immunisées sans sérologie positive. Prenez par exemple les enfants. Les enfants, pour une raison qu'on ignore un petit peu, sont quasiment tous protégés contre ce virus. Pourtant, si vous leur faites une sérologie, ils seront négatifs. Donc il y a probablement une autre immunité qui fait que le virus ne ciblera pas tout le monde.
Je crois que vous donnez en exemple ce que vous avez vécu dans votre propre service. Vous dites qu'au début, au moment où vraiment il y a eu le dur de l'épidémie, il y a eu beaucoup de vos confrères qui sont tombés malades et puis ça s'est calmé. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre service qui vous permet aussi de dire ça ?
C'est-à-dire qu'effectivement, au début de l'épidémie, on est évidemment un service très exposé, on est aux urgences, et puis les moyens de protection sont rentrés dans la polémique ce qu'ils étaient. Donc il y a eu un collègue médecin ou interne malade tous les 3 jours avec un test positif. Donc on pensait qu'on allait plus ou moins tous y passer, et être malade.
Oui, au début c'était l'hécatombe parmi les soignants, enfin l'hécatombe, façon de parler bien sûr.
Oui, voilà, mais ça tombait tous les 3 jours. Et on ne peut pas dire qu'on avait des mesures de protection entre nous qui étaient drastiques. Donc voilà, et en fait au bout de 2 semaines, une fois que 10-15% de mes collègues ont été contaminés, on a assisté à 0 nouvelle contamination.
Avec les mêmes moyens de protection, et beaucoup de patients toujours présents, c'est ça ?
Alors, les mêmes moyens, j'irais même jusqu'à dire un peu moins, parce qu'on est humain. Et au bout d'un mois et demi, 2 mois, de traiter 50 malades Covid par jour et d'être enfermés les uns avec les autres, on ne peut pas dire que c'était les mêmes moyens et les mêmes mesures de protection qu'au début. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on a peut-être relâché notre garde sur nos protections.
Et pourtant, plus personne de malade.
On n'est plus tombé malade, voilà. Ouais. Donc ça, c'est juste une expérience personnelle, mais j'aimerais bien avoir la clé pour comprendre ça, qui est un phénomène très intéressant.
Jimmy ?
Professeur, il y a d'un côté les pro-Raoult et ceux qui sont du côté de la science. Vous êtes du côté de la science, mais vous avez écrit malgré tout « Ce qu'a fait Didier Raoult à la science est impardonnable ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors je pense que tout le monde l'a dit et répété, tout le monde est au courant. Ce que fait Didier Raoult comme docteur, comme épidémiologiste, etc., moi je ne m'intéresse pas du tout. Il dit des choses plus ou moins vraies, comme tout le monde, il se trompe pas. Ce qui est impardonnable, je trouve, c'est d'avoir dit que la science était de son côté et que ses études prouvaient ce qu'il avançait. Ça, c'est complètement faux. Peut-être qu'il a raison, je n'en sais rien, moi je suis pas. Voilà. Mais peut-être qu'il a raison de donner de l'hydroxychloroquine à ses malades.
C'est interdit maintenant, depuis aujourd'hui, c'est interdit en France,
oui,
en plus.
C'est grotesque. C'est grotesque d'autoriser un truc au bout de 3 jours d'une étude pourrie et de l'interdire 24 heures après une nouvelle étude. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je trouve qui est impardonnable, c'est d'avoir brandi des fausses preuves, d'avoir dit regardez, nos publications scientifiques le prouvent. Alors qu'un étudiant de deuxième année pourrait vous dire que c'est pas de la science, c'est qu'il n'y a rien du tout qui est prouvé là-dedans.
Jimmy, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, justement ?
Je suis aussi, non pas contre Raoult, mais je suis un peu perplexe, d'autant plus que si on avait une épidémie qu'on pouvait traiter aussi facilement avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, je pense que nous n'en serons jamais arrivés là. Personne, voilà, les études ne montrent pour l'instant que ça marche pas. Et on espère, encore une fois, on pense qu'on voudrait être contre Raoult ou contre la chloroquine. Non, si un traitement pas cher pouvait marcher, ben on serait tous contents.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup professeur Jonathan Freud d'avoir accepté notre invitation pour ce point coronavirus. Merci encore.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est Florence Servan-Schreiber. Elle est spécialiste en psychologie positive. Vous allez voir, elle va nous prendre par la main et nous délivrer ses meilleurs conseils pour sortir enfin la tête de l'eau, pour en finir avec le blues, le burn-out post-confinement et débuter enfin un été plein de vitalité. Tout ça, c'est juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous, Florence Servan-Schreiber. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes conférencière et spécialiste en psychologie positive. Vous allez publier d'ailleurs la semaine prochaine, le 3 juin, Écrire pour s'épanouir et kiffer chez Marabout. Alors on va parler des bienfaits de l'écriture un peu plus tard dans cet entretien, mais d'abord on va peut-être faire un petit bilan ensemble. Vous étiez venu dans l'émission pendant le confinement. Là maintenant, le confinement c'est fini. On a retrouvé pour certains un semblant de vie normale et pourtant, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours complètement au bout du rouleau. Comment on l'explique ?
Alors, c'est complètement normal, c'est-à-dire que nous avons tous été sérieusement désaxés par rapport à nos repères, nos habitudes, ce qu'on attend de nous, ce qu'on fait faire, les gens que l'on voit, etc. C'est très intéressant parce que lorsque la Chine a commencé précisément à Wuhan à sortir du confinement, des études ont commencé à paraître en disant que la population était beaucoup plus anxieuse et déprimée qu'elle ne l'était avant l'épidémie. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il se passe exactement la même chose chez nous, et c'est ce qui est en train d'arriver. Hier déjà, ont été publiés des articles chez nous en disant exactement la même chose, le niveau d'anxiété a augmenté. Donc, juste déjà, commencer par se dire que ce que nous ressentons, d'ailleurs j'étais ravie du thème de votre émission aujourd'hui, parce que je me suis dit, ça va m'aider, tiens.
On va peut-être essayer, nous aussi on va essayer de vous aider, parce qu'on est positif avec le docteur Jimmy Mohamed, vous nous connaissez. Mais vous pensez qu'on est en train de vivre en fait une espèce de, je sais pas, de stress post-traumatique collectif, c'est ça ?
On n'est même pas encore dans le post-traumatique.
Ouais, j'avance un peu parce que j'ai envie de voir l'avenir, vous avez compris.
Non, mais nous sommes déjà dans l'avenir et quand même, ça y est, ça bouge. Mais il n'empêche que nous ne sommes pas intacts. Et déjà, on va commencer par se donner cette autorisation-là et se dire que c'est bien normal. Ce serait bizarre de ne pas avoir été affecté. C'est plutôt ça, en fait, qu'il faut se dire.
Et Florence, on a l'impression qu'il y a beaucoup, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a eu quelques sondages aussi qui sont sortis sur ce sujet-là, qui disent que beaucoup de femmes particulièrement ont morflé, on va dire, pendant le confinement, et peut-être plus que les hommes, parce que toujours cette histoire, évidemment, de charge mentale. Est-ce que vous voyez ça, peut-être, dans les gens qui vous demandent conseil, plus les femmes que les hommes ou pas ?
Alors, je parle, c'est vrai, moi-même à plus de femmes, donc je constate, je ne sais pas comparer, mais en effet, j'ai lu les mêmes informations que vous. Notamment, on parle beaucoup des foyers monoparentaux, donc des femmes seules qui se sont retrouvées avec la charge absolue des enfants qui ne sont plus à la cantine, il faut faire le devoir, il y en a trois, il y en a deux.
Et alors, quand elles télétravaillaient, ça devait être encore pire. Moi, j'en ai croisé quelques-unes, effectivement. C'était compliqué.
En télétravaillant. Non, soyons clairs, la situation des femmes a régressé pendant cette pandémie, que ce soit sur les charges domestiques, que ce soit dans les violences physiques. Enfin, c'est pas une bonne idée de s'enfermer quand on cherche l'égalité entre les hommes et les femmes. On voit que nous sommes encore fragiles de ce côté-là.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et certains ou certaines se sont mis en tête qu'il fallait absolument réussir ce confinement. Certains pensent l'avoir raté. Il fallait être le meilleur cuisinier, le meilleur papa, le meilleur enseignant, le meilleur époux ou épouse. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui pensent avoir un peu tout raté en cette période où il fallait finalement être épanoui et parfaitement équilibré ?
Alors moi, je les félicite déjà d'être arrivés jusqu'ici. Et je crois que chacun, on peut s'auto-congratuler d'avoir survécu en n'ayant pas fait son pain, en ayant mal fait les devoirs, en ayant choisi certains jours.
Bravo aux losers, bravo aux losers, c'est ça que vous dites.
Non, mais bravo aux humains surtout.
Ouais, bien
parce
sûr.
Que notre humanité s'est exprimée avec ses petits moyens, nous ne sommes pas surpuissants. Et soudain, on nous a demandé de tenir quatre carrières d'un coup. Il fallait être professeur, cuisinier, faire exercer son propre métier, être animateur également, et psychologue en plus à l'intérieur des foyers quand on était plusieurs, ou alors tout simplement quand on était trop seul, c'était assez difficile à faire aussi. Donc disons-nous que finalement, même si on se sent patraque, même si on se sent travers, c'est déjà pas mal. Ça aurait pu être pire. On peut regarder des choses comme ça.
On s'en est pas mal tiré. Nous aussi, on avait l'impression d'avoir tout raté, mais grâce à vous, on se dit qu'on a été hyper fort. Vous venez de nous féliciter, donc c'est super. Florence, si on a l'impression effectivement d'avoir raté, donc entre guillemets, son confinement. Ce qu'il faut voir aussi de manière positive, je sais que vous allez nous y aider, c'est que finalement, bon, avoir raté son confinement, on va dire qu'on s'en fout, c'était hier, et ce qu'il faut, c'est réussir sa vie, être épanoui, et ça, il est jamais, jamais, jamais trop tard. Vous nous l'avez répété déjà pas mal de fois, je crois.
Non, mais ça, tout continue et tout recommence. Vous savez, ce que l'on peut peut-être un petit peu faire maintenant, et nous n'avons pas pu le faire pendant 2 mois, donc c'est ça qui était compliqué, c'est faire des projets. Parce que vous avez peut-être remarqué qu'il était absolument impossible de se projeter au-delà de la semaine d'après. Alors d'abord, c'était le 11 mai, puis ensuite, c'est le 3 juin, etc. Mais là, quand même, l'été arrive. Nous allons probablement demain avoir quelques autorisations. Et donc, il faut que chacun d'entre nous ait la possibilité de se dire « Ok, bon, alors j'ai envie de quoi ?» Et ça peut être tout petit, hein. Ça peut être de retrouver quelqu'un avec lequel on a envie d'aller manger une glace ou avec lequel, éventuellement, on a envie de boire un coup, même si c'est à la maison. Mais de recommencer à s'imaginer à l'avenir, parce que dès lors qu'on fait ça, notre cerveau va sécréter de la sérotonine, qui est une substance qui fait qu'on se sent merveilleusement bien. Mais pour ça, il nous faut un peu des plans. Donc on peut recommencer à faire des petits plans pour ne pas être déçu, mais au moins pour les attendre.
C'est incroyable, je reçois un texto au même moment où on parle, justement pour un plan terrasse ce week-end, vous voyez, donc je vais peut-être faire des projets moi aussi. Merci beaucoup Florence, vous bougez pas, on fait que commencer cet entretien, on vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler du futur, de l'après-Covid, pour ceux qui ont vraiment l'impression que cette période les a complètement rincés, vidés, grâce à la psychologie positive. On va vous aider à recréer votre espace vital, comment arriver à remettre l'accent sur ce qui est beau dans notre vie et ce qui nous fait vraiment du bien. On vous détaille tout ça très vite, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et notre invité, c'est vous, hein, Florence Savant-Schreiber. Vous êtes conférencière et spécialiste en psychologie positive. Florence, on va passer à la pratique, hein, vraiment, pour celles et ceux qui se sont peut-être un peu abîmés, perdus pendant l'épidémie et le confinement surtout, notamment parce que la famille, bon, c'est chouette, hein, on trouve ça tous très chouette, mais parfois, on n'en peut plus. Est-ce qu'il est temps de penser un petit peu à soi? Je sais que vous aimez bien vous parler d'altruisme, mais tout ça, mais est-ce qu'on peut un peu se recentrer sur ses besoins vitaux ?
Non, mais c'est essentiel. On va commencer par là, parce que sinon, nous n'avons pas d'énergie à donner aux autres, tout simplement. Donc, par exemple, une idée qui me vient, c'est que quand on a vécu vraiment absolument non-stop avec ses enfants, Dieu sait qu'on les aime, hein, mais peut-être on peut s'octroyer, s'organiser avec une voisine, une cousine ou quelqu'un dans son entourage pour pouvoir peut-être se les partager de temps en temps, vous voyez, prendre ceux des autres et puis de donner les siens. Comme ça, on récupère un peu de temps pour soi. Il y a une notion que j'adore, c'est le me time. Le me time, c'est du temps que pour moi, en fait. Ouais. Et ça n'a pas besoin de durer longtemps. Ça peut être une heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être une demi-journée si jamais on a la chance de pouvoir aller jusque-là. Mais il faut absolument prévoir ça, tout simplement, pour ressentir de nouveau ce dont on pourrait avoir envie, parce qu'on est quand même beaucoup dans les devoirs et la routine, des choses à accomplir, etc., depuis le début de tout ça, en plus du boulot. Hein.
Ah oui.
Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens continuent à travailler et on ne fait plus très bien la différence entre les jours travaillés, les jours pas travaillés. Le télétravail a aussi pas mal mélangé les choses. Donc, vraiment, sérieusement, se retrouver des repères, des moments sans rien. C'est déjà le début de la naissance de nouvelles envies.
Docteur Jimmy Mohamed.
Florence, mes connaissances et mon savoir n'ont très peu de limites. Il y a par contre un petit angle mort, c'est celui de la psychologie positive. Et justement, vos méthodes de kiff pourraient permettre justement à faire appel à nos super pouvoirs et les identifier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, la méthode des kiffs, absolument, ça consiste à regarder vraiment le plus banal de la journée, donc ce qui vient de se passer, déjà on peut le faire tout de suite, depuis ce matin, et de se dire, depuis ce matin, quelles sont les trois choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Et c'est un espèce de grand merci, vous voyez, c'est pas un merci de politesse, c'est de se dire, waouh, mais
vous savez vous savez ce qu'il me montre, Jimmy, parce qu'il a été adorable, il est arrivé avec un plateau de pâtisserie orientale tout à l'heure, pour moi et pour l'équipe ici, et il me les montre, il me dit, tu vois, pour ça, tu me dis merci.
Ouais, les kiffs sont là.
C'est vrai, j'ai kiffé, hein, parce que juste avant de prendre l'antenne, j'étais la bouche pleine de sucre. Alors, vous voyez, c'est vrai, ben moi, c'est mon premier kiff. Alors, allez-y, continuez, pardon.
Alors, oui, mais ça, c'est quand même un kiff de politesse. On le reconnaît bien là. C'est-à-dire, monsieur est bien élevé. Mais c'est aussi de se dire, oui, ça peut être la nature, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être quelqu'un qui. Voilà, le texto que vous venez de recevoir en vous disant, on fait une terrasse ce week-end. Là, on peut se dire, OK, merci, j'ai un plan. C'est génial.
Oui.
Et c'est de s'émerveiller en fait vraiment des choses banales. Mais si on ne le fait pas volontairement, il est probable que vu l'état dans lequel nous sommes actuellement, nous allons en fait passer à côté de pas mal de choses. Oui. Parce qu'on a été tellement, on a tellement sollicité le négatif pendant ces semaines que ça demande un effort conscient pour reprendre cette réflexion qui est de se dire mais qu'est-ce qu'il y a de bon ? Parce qu'il y en a des trucs bons absolument partout, il y a des trucs chouettes partout. Mmh.
Bon, d'ailleurs, c'est pas Jimmy que je remercie, c'est son épouse Soya, j'en profite, merci. Merci beaucoup. Florence, on a manqué tous de sociabilité, vous le disiez, dans ces kiffs, dans ces moments de plaisir pour soi qu'on doit identifier en ce moment. Le fait de justement programmer des visites avec des copains, des bouffes, alors à moins de 10, il faut encore être très prudent, le virus est là. Mais ça, c'est important, la sociabilité, c'est ça aussi qui nous fait déprimer là tous en ce moment, parce qu'on a manqué beaucoup des autres.
Alors écoutez, oui, mais j'ai un petit conseil là-dessus. Reprenons les choses petit à petit. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la peine d'organiser en effet la grosse fête avec tout le monde. Ça va provoquer des chocs dans le bon sens du terme, mais quand même, de retrouver ces gens qui nous ont manqué parce qu'on a des choses à rattraper quand même. On ne s'est pas vu, on se redécouvre. Donc, faisons-le avec attention. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est de vraiment se dire, bon ben voilà, je vais voir un tel, je vous partage juste quelque chose, il m'a donc déjà été donné de revoir deux de mes amis, vraiment les plus chers, mes copines, et à chaque fois que je les ai retrouvés, j'ai pleuré pendant 24 heures après, c'est comme si ça avait remué quelque chose, où vraiment j'avais tenu bon, et puis tout à coup, il y a une espèce de très grande vulnérabilité, parce qu'on retrouve les gens qu'on aime, et en fait, ça fragilise sur le moment. Après, on s'en remet, hein. C'est pas un choc positif. Mmh. Mais néanmoins, souvenons-nous de cette sortie de confinement, c'est-à-dire que traitons-le comme un moment exceptionnel, et notamment de retrouver ces gens que nous n'avons pas vus depuis longtemps, parce que c'est un cadeau, en fait,
ah oui,
de pouvoir se retrouver.
Jimmy.
Florence, on a tous pris un peu de poids, 2, 3, 4 kilos. Est-ce que c'est le moment de se mettre au régime, ou est-ce qu'on attend un peu ?
Alors ça, c'est pas ma spécialité. Moi, je considère qu'on peut se sentir bien quel que soit notre poids, quel que soit... vous voyez, pour moi, ce n'est pas lié, en effet. Bon, on pèse un peu plus lourd, hein, indéniablement.
C'est certain, mais ça là, déprime quand même d'avoir grossi. Hein, ça peut être déprimant un peu.
Alors, oui, mais non, on peut aussi se dire que, se rendre compte que c'est temporaire, parce que d'abord, on va rebouger beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on va quand même se remettre, nous avons été très, très inactifs, hein, physiquement, à moins de s'être déchaînés, certains l'ont fait, mais d'autres ont raté leur confinement, hein, dont je fais partie, donc on n'a pas du tout fait les 14 de sport par jour. Donc, naturellement, tout ça va se remettre à bouger. Moi, je serais pour se foutre la paix un peu. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal enduré, là, déjà. Donc, commençons par... Justement, c'est ça, la psychologie positive, quand vous posiez la question.
Commençons par kiffer, quoi.
Non, commençons par ce qui fait du bien. Et ensuite, on réglera ce qui ne va pas. Mais commençons par remettre du qui fait du bien, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire, qui j'aime voir, comment j'aime faire les choses, etc. Mmh. Est-ce que j'aime être seule? Est-ce que j'aime voir plus de gens? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de se retrouver un peu plus seuls. Mais on commence par ce qui nous remplit et nous anime. Et après, hop, naturellement, on perdra du poids tout seul.
Merci Florence. On n'en a pas terminé. Nous allons très vite poursuivre cet entretien positif et qui nous fait du bien aujourd'hui.
Europe 1.
Sans rendez-vous, reviens dans quelques minutes, juste après une courte pause. On va continuer cet entretien avec Florence Servan-Schreiber et nous allons passer à un thème qui lui est cher puisque c'est le sujet du livre qu'elle sort la semaine prochaine, L'écriture, qui permet de s'épanouir. On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Avec nous aussi, notre invité du jour, toujours en ligne, c'est vous, Florence Servan-Schreiber. Je rappelle que vous êtes conférencière et spécialiste en psychologie positive et donc vous êtes l'auteur du livre Bloom, écrire pour s'épanouir et kiffer aux éditions Marabout, livre qui sort le 3 juin et donc on va en parler ici en avant-première. Merci beaucoup, Florence. Alors, vous écrire, vous le faites depuis longtemps, hein, c'est même bon, une vraie partie de votre métier, mais d'où vous est venue l'idée de guider les autres finalement vers les bienfaits de l'écriture?
Eh bien, parce que c'est l'arme absolue et je ne pouvais même pas me douter qu'un tel virus allait nous tomber dessus. J'ai commencé à explorer, au-delà du fait d'écrire, pour écrire un texte qui va être publié, etc., quels étaient les effets psychologiques de l'écriture. Et j'ai trouvé des choses, mais absolument démentes. Il suffit, par exemple, très concrètement, d'écrire pendant 20 minutes 3 jours de suite, à propos de quelque chose qui nous a fait de la peine ou traumatisé, ou que l'on ressasse ou que l'on rumine, donc des choses que nous connaissons bien. Et figurez-vous qu'à partir de là, non seulement notre niveau de bonheur augmente de façon durable pour les 6 mois qui suivent, on a moins de chances d'être quitté par son conjoint si on a écrit des choses le concernant. Si jamais vous avez une cicatrice, vous vous êtes fait mal, vous allez cicatriser plus vite, etc. Oui, c'est ouf.
Voilà. C'est ouf. C'est sorti tout seul, excusez-moi. Mais
ah oui, il y a des études qui montrent ce genre de bienfaits qui sont quand même incroyables. La cicatrice, là, j'imaginais pas que ce genre de choses était possible.
Ah non, mais la cicatrice. Ouais, voilà, c'est la preuve absolue qu'il se passe des choses physiologiques quand on s'aligne à peu près pour faire des choses finalement assez simples. Et l'écriture permet de faire ça. Et alors attention, là nous parlons d'une écriture dans laquelle on peut faire des fautes d'orthographe, qu'on a besoin de montrer à personne. Vous voyez, donc c'est pas du tout l'école. Hein. Beaucoup de gens sont un peu complexés et traumatisés parce qu'à l'école ça s'est pas très bien passé, j'en faisais partie. Et finalement, on se rend compte que juste c'est le lien entre la main et le cerveau en fait. Et de noter les choses comme ça peut avoir des effets de dingue. Donc j'ai écrit un livre pour raconter ça parce qu'il y a plein d'effets. C'est génial. Et des beaucoup plus kiffants. Hein, beaucoup plus kiffants.
Jimmy est hyper content parce que si vous regardiez un peu ses ordonnances, il écrit comme un médecin. Quoi, hein, et donc il est rassuré. Tout d'un coup, il va pouvoir faire des brouillons comme ça qui vont lui faire du bien, Jimmy. Ah,
j'avoue que parfois j'écris mal parce que l'orthographe et moi, ça fait deux.
On sait
donc,
que beaucoup de médecins
voilà,
font ça.
Donc voilà, on cache un S et on ne sait pas trop. Mais quand vous parlez d'écrire, c'est un peu le principe du journal intime. Est-ce qu'on se libère de certains poids et ça nous évite peut-être de ruminer à minuit, 1h du matin, des choses de la journée et non pas de s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe, mais de le dire alors qu'on l'a peut-être écrit en fait.
Mais exactement. Et alors c'est un très bon exemple hein, ce qui se passe à la maison parce que nous avons tous besoin d'avoir un endroit dans notre vie où on peut être exactement comme on est, où on peut se dire, vous savez, à soi-même, y compris des choses horribles. Hein. Quelquefois, on se dit des choses qui sont totalement inavouables, mais on ne les dit à personne. Et pourtant, nous avons besoin d'exprimer tout ça. Donc, c'est vrai que le journal intime dont vous parlez, hein, qui peut être un cahier, quelque chose caché sous l'oreiller ou alors sur un ordinateur dans un document sécurisé, là, nous permet de tout déverser et ça nous libère, ça donne de la place pour autre chose. Et en général, ça donne de la place pour plus de joie. Tout simplement.
Florence, si on n'a pas d'idée, qu'on n'a pas non plus l'envie d'écrire sur soi, on a le droit hein, de ne pas se sentir encore prêt à se lancer dans le journal intime. Qu'est-ce que vous conseillez pour se lancer dans l'écriture si on n'a vraiment pas envie de parler de choses personnelles? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui pourrait faire du bien déjà pour démarrer?
Alors, on peut raconter des histoires, on peut écrire des lettres à des gens, on peut s'entraîner à décrire son propre métier comme si on s'adressait à quelqu'un qui ne savait absolument rien. On se précipite sur ce livre Bloom parce qu'il y a une trentaine d'exercices qui sont des exercices créatifs, qui sont des exercices d'introspection, des questions extrêmement simples hein, d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement ni lourdes ni transformantes, mais juste qui nous font du bien pour se lancer. Et vous savez, souvent on me dit oui, mais alors la page blanche, moi ça m'intimide, j'ai peur d'écrire des bêtises, etc. Donc j'ai un truc très simple, c'est de prendre son stylo et de faire une croix sur la page blanche, comme ça déjà elle est plus blanche, vous l'avez salie, elle ne risque plus d'être abîmée par votre écriture, ni vos ordonnances, ni quoi que ce soit. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous pouvez vous lancer.
Jimmy, il a fait une croix sur le conducteur, là. Il vous posez une question, il a fait sa croix, il se sent mieux. Allez, Jimmy.
Pendant le confinement, Florence, vous avez organisé justement des ateliers d'écriture gratuits en ligne. Quel type d'exercice vous avez proposé, par exemple?
Alors, le premier exercice que nous avons fait, c'était absolument génial de voir le résultat, c'était une lettre de réclamation au Covid-19. C'est-à-dire qu'on avait le droit de lui écrire.
Qu'est-ce que t'es venu nous embêter, là?
Exactement.
Il y en avait des choses à dire.
Le bazar que vous êtes venu mettre dans notre vie, etc. Donc on a fait ça. Et puis après, un peu plus tard, parce que le temps a passé, il y avait un exercice toutes les semaines. Et on a, au bout d'un mois, fait au contraire une déclaration d'amour au confinement. Parce que malgré tout, dans cette situation complètement inédite dans laquelle nous étions, il y avait des trucs géniaux quand même,
ouais,
très objectivement. Et c'était chouette de s'y reconnecter aussi. Et alors, dans ces jeux d'écriture qui sont aujourd'hui donc un véritable atelier qui s'appelle Bloom également, comme le livre, ce qui est fantastique, c'est que les gens lisaient les textes les uns des autres et se laissaient des commentaires.
Ça donnait quoi comme anecdote, par exemple, ça?
Eh bien, ce sont des gens, en fait, qui partageaient les mêmes choses, au contraire, enfin, qui découvraient le talent, qui se rassuraient les uns les autres. Vous savez, on doute tellement de soi que quand tout à coup, quelqu'un vous laisse un petit mot très sympathique en vous disant « mais j'ai adoré votre texte parce que je m'y suis reconnue » ou « je me sens exactement comme vous », on se sent relié à des gens que l'on ne connaît pas, qui ont la même humilité que nous, parce qu'il y a quand même un petit effort hein, dans le fait d'écrire. Tout le monde est logé à la même enseigne, et on se fait des copains. en fait, par ce biais-là.
Merci beaucoup Florence Servan-Schreiber d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui évidemment voudraient en savoir plus, et je suis sûre que vous êtes nombreux, je rappelle le titre de votre livre qui sort la semaine prochaine, le 3 juin, c'est donc Bloom, écrire pour s'épanouir et kiffer, aux éditions Marabout. Merci Florence.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ça sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé, bien-être, celles que vous nous laissez sur le répondeur d'Europe 1, le 3921. On revient, à tout de suite.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors tout de suite, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé, bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Marc.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'avais une question par rapport aux asperges. Je raffole des asperges et j'ai remarqué que voilà, quand j'allais aux toilettes, mon urine avait une odeur beaucoup plus forte. Et du coup, je voulais savoir pourquoi et d'où ça venait. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée. Au revoir.
Alors, j'adore ça parce que c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Jimmy, vous, votre pipi, je sais que c'est très intime, mais il sent l'asperge.
Non, il sent toujours bon, n'importe quelle circonstance.
Non, mais quand vous mangez de l'asperge, est-ce qu'il y a une odeur particulière?
Je ne mange pas des asperges parce que je me demande qui mange des asperges.
C'est délicieux, les asperges. Vous rigolez cette saison.
Je tiens à vous dire que boire son urine, l'urinothérapie, ça ne sert à rien.
Oui.
Donc, il va falloir arrêter. Ça ne sert à rien. Ça peut être dangereux. Donc, voilà.
Allez, merci, Jimmy. Alors, pour répondre à la question de Marc, on a posé la question au docteur Plumet, qui est donc médecin nutritionniste. Laurence Plumet, on l'écoute.
L'odeur est due à un composé soufré qui s'appelle le méthylmercaptan, qui se trouve dans les asperges et qui va très rapidement passer dans les urines. Par ailleurs, les asperges sont particulièrement diurétiques et c'est la raison pour laquelle l'odeur de un peu soufrée se ressent rapidement dans les urines, car les asperges sont diurétiques et donc elles augmentent le flux urinaire. On note toutefois que dans 10% de la population, il y a des gens qui n'ont pas cette odeur dans les urines ou qui ne la sentent pas. Parce que ça, c'est un autre problème qui peut d'ailleurs révéler un trouble qu'on appelle l'anosmie, qui consiste à ne pas sentir les odeurs. Ça peut être un bon moyen de s'en rendre compte. Ne restons pas sur cette notion avec les asperges qui, au demeurant, sont des légumes extraordinaires. Profitons-en, on est en pleine saison et c'est absolument savoureux.
Et je suis tout à fait d'accord, j'adore les asperges. J'ai dit, mais vous allez vous y mettre, je vais vous en apporter. Alors voilà pour la réponse du docteur Plumet qui était donc au micro de Benjamin Lévesque. Alors à présent, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Isabelle. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Ma mère s'est vue prescrire des prothèses auditives et ça fait quelques jours qu'elle les porte, sauf qu'elle a beaucoup de mal à s'y habituer. Son audioprothésiste lui a dit que ça pouvait prendre plusieurs mois. Cependant, moi je m'inquiète parce que du coup elle a tendance à pas les porter. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez et surtout est-ce que vous avez des conseils pour pouvoir s'acclimater au port de ces fameuses prothèses. Je vous remercie, bonne journée à vous, au revoir.
Alors Jimmy, les prothèses auditives, il faut savoir qu'il y en a en France plus de 700 000 d'appareils auditifs qui sont vendus chaque année. Ça devrait même augmenter hein, depuis la réforme du reste à charge zéro. Mais c'est vrai, moi j'en ai connu pas mal de gens dans mon entourage qui ont eu du mal, des grands-parents notamment, à s'adapter à ces dispositifs. C'est pas toujours facile, hein, je crois.
Oui, parce que souvent les personnes qui ont besoin de prothèses auditives sont un peu dans une forme de déni, elles refusent, elles ne veulent surtout pas avoir cet appareil qui parfois est considéré comme un handicap social. C'est disgracieux puisque finalement ça nous renvoie à notre image du vieillissement et donc elles mettent très longtemps et souvent elles sont traînées par les proches qui leur disent écoutez, non mais là il faut absolument
consulter. Bon, maman, papa, maintenant il faut y aller. Hop.
Sauf qu'entre temps, le cerveau s'est habitué à ce signal sonore qui est beaucoup plus faible, il essaie de compenser même s'il n'arrive pas totalement à percevoir les sons correctement et donc une fois qu'on porte cette prothèse, eh ben, on peut être gêné, on peut mettre du temps avant de s'adapter.
Il faut que le cerveau s'adapte, hein, c'est
exactement,
ça.
Il a été habitué à mal entendre et donc il fait avec, comme si vous aviez la tête sous l'eau, et ben au bout d'un moment, et ben vous compensez, mais de la mauvaise façon.
Alors Jimmy, ça veut dire qu'il faut vraiment pas hésiter, déjà pour éviter, pour si un jour on en a besoin, et on en aura sûrement besoin, puisqu'on vieillit tous, à aller consulter un ORL dès qu'il y a des signes de gêne auditive.
Oui, parce que l'oreille vieillit avec le temps, comme nos organes, et donc vous avez la presbyacousie qui fait que vers 55-60 ans, vous allez moins entendre. Et donc ça, on peut le dépister chez un ORL, vous faites un test rapide, indolore, et à partir de ce moment-là, on peut savoir si factuellement et réellement, vous avez une baisse de l'audition et qui nécessite soit un suivi ou une prothèse.
Alors très concrètement, Jimmy, on revient à la question qui nous est posée. Pour s'habituer à un appareil auditif, il faut, enfin, ça prend combien de temps en moyenne, hein, parce que bien sûr, c'est quelque chose de très subjectif, j'imagine.
Alors les audioprothésistes disent qu'il faut au moins 3 mois pour s'habituer, et parfois même plus, jusqu'à 6 mois pour avoir une bonne audition. Mais tout ça, c'est à condition d'être bien sérieux, d'être compliant. Et donc certains patients, une fois qu'ils rencontrent un ou deux obstacles, se découragent et ne la portent plus car ils ont du mal à la régler. Et donc ce qui est important, c'est d'y aller progressivement, comme quand vous avez un appareil dentaire. Parfois, vous le mettez 2-3 heures par jour. Là, on peut faire ça. Et puis au bout d'un moment, on va s'y habituer. Et surtout, ça va changer leur qualité de vie.
Et de toute façon, Jimmy, pour ceux comme la maman d'Isabelle qui n'y arrive pas, là, ça fait que quelques jours, donc ils ont quand même un peu de marge, ça va venir sûrement. Il ne faut pas hésiter non plus à aller les revoir, les audioprothésistes, parce qu'ils sont là pour ça, pour assurer ce suivi aussi derrière. Exactement. Et les réglages. Hein,
c'est comme un service après-vente, mais ce sont eux qui vont vous conseiller le mieux. Ils vont pouvoir, à ce moment-là, régler tous les petits problèmes de volume, le patient qui entend trop fort, ou bien les voix, les sons qui résonnent. Et à ce moment-là, l'audioprothésiste fait ce qu'il faut. Surtout que parfois, il y a ce petit sifflement lors des appels téléphoniques qui peut être dérangeant. Et donc, il ne faut pas hésiter encore une fois à reconsulter l'audioprothésiste.
Et juste avec la télé, Jimmy, rapidement, je crois qu'il y a des patients qui ont aussi des difficultés quand ils sont appareillés comme ça pour bien suivre la télévision.
Oui, parce qu'en fait, l'appareil capte tous les sons. Et donc, du coup, ils vont être amplifiés par le son de la télévision. Donc, il est possible de placer un petit émetteur à côté de la télévision. Ça coûte entre 100 et 200 euros supplémentaires pour que le son soit transmis directement de la télé vers la prothèse. Donc des moyens existent si jamais vous êtes très embêté, mais il faut effectivement payer un petit peu plus.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Isabelle qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo comme tous les jours. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique avec la chanteuse Nash. Ça s'appelle La couleur de l'amour.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé, le bien-être et l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes toujours avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Je dis l'amour parce que Catherine rentre en scène à l'instant en ligne avec nous. Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous avez vu, vous aviez un petit titre juste avant vous qui vous mettait comme ça, dans l'ambiance, on va dire.
Formidable, dans l'ambiance, de bonne humeur. Et oui, l'amour, toujours l'amour. Mais faire l'amour, c'est en prendre soin. Alors, quelle est notre question du jour?
Alors, la question de Catherine, elle veut aller à l'essentiel aujourd'hui. On y va. Allez, on va au but.
Aujourd'hui.
On va droit au but.
Non, mais si. On peut parler d'amour tous les trois. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des questions. Mais
s'il y en a.
Très bien. Alors, c'est une question de Sandra qu'on a reçue aujourd'hui. Sandra, elle nous pose la question suivante. Chaque fois que nous faisons l'amour, justement, mon copain se met à parler. Il me demande si j'aime ça, si je n'ai pas mal, ou alors il me dit que je suis belle. Cela m'agace. Je ne sais pas si c'est moi ou lui qui a un problème. Vous en pensez quoi? Catherine, comment on explique que certains se mettent à parler comme ça? Parce qu'apparemment, c'est ça qui la dérange. Ils n'arrêtent pas de parler pendant l'amour. Pourquoi certains ont ce besoin de parler?
Bah, tout simplement parce que le fait de faire l'amour, c'est un moment d'émotion, c'est un moment de ressenti, de sensation, de sentiment, et le corps parfois ne peut y suffire pour traduire ce trop plein d'élan vers l'autre qui fait tu es belle, tu me plais, j'aime ça, est-ce que tu aimes ça, cette façon de créer du lien, chercher à créer du lien, ce qui n'est évidemment pas obligatoire, ce qui n'est pas non plus la preuve de plus d'amour que quelqu'un qui ne parlerait pas, mais juste un besoin d'une communication ou né d'une inquiétude. Cet homme peut être inquiet et a besoin d'être rassuré quant à la réciprocité, ou tout simplement l'expression libre et débridée de ses émotions et ses interrogations dans la direction de sa belle.
Jimmy ?
Mais est-ce qu'elle ne devrait pas lui dire tout simplement de se taire, non ? Si ça la dérange, si ça coupe tout, non ? C'est peut-être une solution un peu radicale.
Oui, bien. Oui, mais peut-être qu'il faut d'abord qu'elle comprenne pourquoi ça la dérange. Je crois que effectivement, quand la question c'est est-ce que tu aimes ça ou est-ce que ça te plaît, ça l'oblige d'abord. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est dérangeant. D'une façon générale, tout simplement parce que c'est une question qui attend une réponse, alors que ce n'est pas, en tout cas, elle laisse penser qu'elle attend une réponse, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, et que du coup, elle se voit tout d'un coup sollicitée intellectuellement pour pouvoir être en capacité à répondre à la question, alors qu'elle est toute dans la liberté de son élan. Érotique, et donc du coup elle n'est pas dans la réflexion, et du coup ça la fait sortir de son élan érotique pour être dans la réflexion, ce qui coupe effectivement son élan. Peut-être qu'il faut tout simplement lui expliquer que s'il y a une question, il doit y avoir une réponse, s'il y a une réponse, s'il y a un cerveau qui marche, eh bien l'érotisme est un petit peu freiné.
Mais l'érotisme, justement, il y a des... Alors, elle n'aime pas ça, Sandra, elle n'aime pas ça, mais il y a des gens à qui ça plaît, enfin, il y a des couples qui sont très loquaces parce que ça les excite aussi, ça. Il y en a qui vraiment utilisent ça.
Oui, d'ailleurs, qu'ils l'utilisent de façon un peu même, j'allais dire, mécanique, c'est-à-dire ils réfléchissent pas à répondre à la question. Ils envoient à leur tour, comme on enverrait un râle, un son, un « m », pour juste dire à l'autre que ça plaît, bien tout d'un coup, c'est « j'aime ça encore »,« tu es beau, je t'aime », etc., sans que les mots soient complètement réfléchis, et c'est source, du coup, d'excitation. Évidemment que ce qui se pose dans cette question-là, c'est pourquoi elle est dérangée, par exemple, quand on lui dit qu'elle est belle, peut-être parce qu'elle est renvoyée à elle, et qu'il est plus facile de faire l'amour quand elle s'éloigne d'elle-même et de la conscience d'elle-même, parce que sinon elle est renvoyée à ce qu'elle est socialement et la légitimité qu'elle s'offre ou ne s'offre pas à pouvoir faire l'amour, à être vue en train de faire l'amour. Et quand il lui dit « tu es belle » ou quand il lui dit « est-ce que tu aimes ça ?», il la renvoie à son corps en train de faire l'amour, à son sexe. Et peut-être que c'est difficile pour elle de faire avec ça, sauf à être dans le silence comme si on ne s'était pas vu, en faisant comme si de rien n'était. Et là, tout d'un coup, la liberté de sa sexualité s'offre.
Jimmy ?
Peut-être proposer à la fin, je sais pas, un débriefing pour savoir si c'était bien ou pas. Non, mais c'est vrai, peut-être que à ce moment-là, peut-être que lui n'aura pas besoin d'être rassuré pendant l'acte. S'il est rassuré après, si ça s'est bien passé ou pas, corriger certaines choses et peut-être permettre un retour à l'équilibre.
Grâce au débrief.
Oui.
Alors, je pense que le débrief est intéressant si c'est pour dire, écoute chérie, c'est certainement, t'es trop chou, t'as besoin de me parler, mais moi c'est un peu compliqué. Ou de fait, j'aime faire l'amour avec toi, je vis des choses différentes à chaque fois, mais j'ai pas envie nécessairement de dire aujourd'hui telle note, ou aujourd'hui j'en étais là, j'étais capable de ça. Ce débrief-là est plutôt hasardeux et compliqué dans la sexualité. Je crois qu'on se le dit souvent par le sourire, par le regard entendu, par le les rougissements, où on se le dit le lendemain, dis donc, c'était bien hier. Et c'est à ce titre que ce débrief a du sens, parce que le débrief juste après, ouais, c'est un petit peu,
moi, je sens
c'est
moyen,
un
mais...
petit peu la performance. En général, les femmes n'aiment pas, en tout cas, sachez-le. Si jamais c'est votre
vous avez appris un truc aujourd'hui.
Non, mais que les choses soient claires. Moi, je suis là en tant qu'intervenant extérieur. Je suis pas là pour faire.
Mais bien sûr, docteur. Mais bien sûr, évidemment.
Non, mais je suis pas là pour gratter une consultation, Catherine. Je vous rassure, tout va bien. Je salue. Personne, non, d'ailleurs, chez les personnes.
Vous êtes tombé, vous enfoncez. Donc, pas de débrief, Catherine. C'est un tue-l'amour, les débriefs. Allez, c'est ça. Merci beaucoup, Catherine.
En tout cas, l'humour, tant qu'on veut, par contre.
Ah, ça, on n'hésite pas. On peut faire des blagues. Alors, on ne parle pas trop, mais on fait des blagues. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Exactement. Merci beaucoup, Jimmy. On se retrouve bien sûr demain à 15h. N'oubliez pas, si vous avez une question santé, bien-être, vous nous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, et on y répondra dans l'émission, évidemment.